Ouais, j'ai une nouvelle copine là.
Ah ouais?
Ouais, bah c'est. Bah, il y a un truc un peu chelou, c'est qu'elle a le même prénom que ma sœur.
Ah.
Donc, c'est vrai que ça me fait bizarre parce que quand je fais l'amour avec elle, bah, du coup, je pense à ma copine, quoi. Ah, je sais, je téléphone avec des élastiques, mais bon, c'est parce que c'est une blague qui est un peu tirée par les cheveux, quoi. Mesdames et messieurs, bonjour. Mes très chers abonnés, mes chers parsékiens et parsékiennes, j'aimerais que nous ayons tous ensemble une pensée pour toutes les personnes qui me découvrent avec cette vidéo et qui pourraient être un peu étonnées, même un petit peu offusquées, n'est-ce pas, par la vanne que je viens de faire, parce que peut-être ils pensaient simplement trouver une vidéo normale sur une analyse de Indiana Jones. S'il vous plaît, rassurez-les en commentaire, dites-leur que tout va bien se passer et donnez-leur envie de rester. Et pour tous les nouveaux, bah, bienvenue et allez lire les commentaires. Aujourd'hui, on parle du deuxième opus de l'une des plus grandes sagas cinématographiques de tous les temps, créée par George Lucas et Steven Spielberg, Indiana Jones et le Temple Maudit. Fuck yeah! J'avais déjà fait une vidéo sur le premier Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue il y a quelques mois. Alors, on a dit dans les commentaires, hein, et on m'a dit aussi comme ça dans la rue, que c'était la meilleure vidéo de la chaîne. Voilà, je sais pas, je dis rien, voilà, mais à mon avis, c'est vrai. Et on continue donc la saga avec ce second volet qui fait encore débat aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est nul? Est-ce que voilà, est-ce que c'est le moins bon de la série, la trilogie originelle? C'est pas le moins bon de la saga. Hein. Pour moi, tu peux pas faire moins bon que le 4. Est-ce que c'est pas un pur film de divertissement de ouf comme on les kiffe et comme on en reverra jamais plus? Eh bien, nous allons répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Et plus encore. Allez, Chewie!
Mais quoi?
Rien. Bon, alors, on va être honnête deux secondes en matière de parler un petit peu quand tu voyages. Indiana Jones, s'il parlait que anglais, le film, il durerait 20 minutes. En Chine, il comprendrait rien à ce que raconte Lao Tse, il se ferait douiller direct. En Inde, il arrive dans le village, personne parle sa langue, bah, il n'y a pas d'histoire et il rentre chez lui. En Égypte, il capte pas les inscriptions, il ouvre la mauvaise salle et terminé, merci, au revoir. Et en Allemagne, bon, bah là, il tient 12 secondes. En vrai, Indiana Jones, c'est pas juste un aventurier, c'est un mec qui passe sa vie à décrypter des langues, parler avec les locaux, comprendre les cultures. Et toutes ces langues, il les a apprises avec Rosetta Stone. C'est le partenaire de cette vidéo. Rosetta Stone est une application qui va vous apprendre à parler plein de langues étrangères. L'application vous propose des leçons simples, rapides, efficaces que vous pouvez faire n'importe où. Dans le train, dans votre lit, sur vos chiottes, ou même entre deux temples maudits. En fait, on suit un parcours d'apprentissage qu'on peut personnaliser en apprenant les leçons dans l'ordre qu'on veut, selon les thèmes qui nous intéressent. Et ce qui est super, c'est qu'on est immergé direct. On peut pas faire plus direct que la méthode Rosetta Stone. C'est des courtes leçons, genre 5 minutes, où on bosse tout. La prononciation, le vocabulaire, la grammaire. Et on avance tranquille à notre rythme. Comme ça, si vous recevez un espagnol chez vous, bah, vous pourrez lui dire « Mi casa es Mufasa ». Et il y a un truc qui est assez particulier dans leur approche. Alors c'est vrai qu'au départ, au tout début, j'avais un petit peu de mal avec ça, mais très rapidement, je me suis rendu compte que c'était hyper efficace. On va te montrer des images, des mots, voilà, sans forcément me donner la traduction directe. En fait, tu sais pas trop ce que ça veut dire. Et au fur et à mesure que tu comprends comment ça marche, tu fais des liens. Et ton cerveau va faire le taf tout seul, et c'est ça qui crée des connexions. Et du coup, on apprend un petit peu logiquement, tranquillement, et presque sans s'en rendre compte. C'est quasiment du domaine de la magie noire. Alors, je vais pas vous faire toute l'appli, parce qu'il y a gavé de trucs. Vous avez des histoires à lire directement dans la langue que vous apprenez, des cours en direct sur plein de thèmes. Vous pouvez perfectionner votre accent et parler comme un local avec la technologie de reconnaissance vocale True Accent. Et comme ça, vous pourrez lire dans votre plus bel anglais. I want a candle, I want my sensibility. Et surtout, il y a les phrases book aussi, pour apprendre les petites phrases essentielles si on part en voyage. C'est quand même assez complet. Il y a 25 langues disponibles, c'est largement assez pour faire le tour du monde et piller des tombes sans réveiller Imhotep et le roi scorpion. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour pouvoir choper 60% de réduction sur l'abonnement à vie pour les 25 langues. Et ça, c'est beau. Un seul paiement, un abonnement illimité, 25 langues. Vous êtes parés pour l'aventure. Et on remercie très chaleureusement Rosetta Stone. Indiana Jones et le Temple Maudit, deuxième film de la grande saga Indiana Jones qui compte aujourd'hui 5 films et une série télévisée, tous les films étant réalisés par Steven Spielberg, sauf le dernier. Alors, on va pas tortiller du cul pour chier droit, Indiana Jones et le Temple Maudit est le meilleur Indiana Jones de toute la saga pour une seule raison. Il est sorti en 1984, et 1984 est la meilleure année de l'histoire de l'univers.
Pourquoi?
Car c'est mon année de naissance. Toutes les personnes qui ne sont pas nées en 1984 sont inférieures à celles nées en 1984. Je dirais même plus, toutes les personnes qui ne sont pas nées en 1984 sont clairement... de la
la merde.
Alors personnellement, je me range dans la catégorie des gens qui ont une énorme bite, qui pensent qu'Indiana Jones et le Temple Maudit est un pur film ultra kiffant, totalement au niveau de tous les autres. Il y a de l'aventure, de l'action, des temples mystérieux, des statues dégueulasses cachées dans la forêt, des courses-poursuites en wagon dans des mines, des enfants torturés, des cœurs arrachés, des mecs brûlés vifs. Bref, un bon film grand public à voir en famille. Alors déjà, Indiana Jones 2, hein, on va l'appeler comme ça, hein, parce qu'il se trouve que c'est le deuxième, n'est pas la suite d'Indiana Jones 1, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, puisque l'action se déroule comme chacun le sait en 1935, donc un an avant Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Indiana Jones 2 est donc un préquel d'Indiana Jones 1.
Mais pourquoi il a fait ça?
C'est parce que Spielberg voulait que les films soient extrêmement rapprochés dans le temps, mais il voulait pas que les méchants soient encore des nazis qui étaient déjà dans le 1 et qui seront aussi dans le 3. Il a donc placé l'action avant, hein, donc comme ça, bah, a pu les nazis. Et du coup, l'action se passe en Asie. Alors, Le Temple Maudit se démarque clairement du premier film.
Qu'est-ce qui a changé?
Bah, ce qui a changé, vous le voyez bien, c'est son aspect beaucoup plus sombre, hein, plus brutal, presque malsain. Ici, il va être question d'une secte qui fait dans l'esclavage d'enfants, hein. Et les enfants qui s'en mangent quelques-unes, on va en voir quelques-uns. Ce sont les meilleurs moments du film. Il y a aussi la fameuse scène du sacrifice humain, hein, absolument génial. T'imagines, c'est quand même en partie à cause de ce film. Et aussi des Gremlins, hein, qui est sorti la même année. J'ai fait une vidéo sur ce film, hein, bien sûr, allez la voir, hein. C'est l'autre meilleure vidéo de la chaîne. Que la classification PG-13 a été créée aux États-Unis pour combler le vide qu'il y avait entre les films pour enfants et les films vraiment adultes. Et alors en fait, pourquoi Spielberg et Lucas ont voulu un film un peu plus sombre, un petit peu à l'image de l'Empire Contre-Attaque par rapport à Un Nouvel Espoir? C'est parce qu'à ce moment-là, George Lucas, il traversait une mauvaise passe.
Titre?
Non, pas là, non. Il est en plein divorce, il est fatigué, tu vois, il subit la pression, hein, de je sais pas quoi. Mais il avait la pression.
La pression de quoi?
Bah, l'impression que tout foutait le camp, tu vois, qu'il y avait plus de saison. Et c'est pour ça qu'il a écrit un truc un peu plus dark, même si, paradoxalement, il y a quand même aussi beaucoup d'humour. Il y a même des trucs, excusez-moi, mais ils se foutent carrément de la gueule des Indiens. Oui, parce que ça se passe en Inde, le film, comme ça. Mais le gouvernement indien, quand il a lu le scénario, il a dit « Oh, là ! Vous vous foutez de notre gueule ou quoi, là ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Pourquoi encore ? Parce que vous nous faites tout chier, là, tout le temps, là ! » Non, mais parce que c'est vrai que, bon, dans le film, il y a quand même certains passages. Vous prenez, par exemple, la scène du dîner au palais, hein, on va en parler après. Les Indiens bouffent des trucs, mais t'hallucines tellement ça a l'air ignoble. Mais les trucs, même les chiens, ils en voudraient pas, quoi. C'est sûr que là, quand tu vois ça, ça fait pas passer les Indiens pour une civilisation tellement avancée, tu vois. Ça fait plutôt style, ils ont des coutumes de sauvages, et en fait, c'est un peuple complètement taré, hein. En fait, c'est un peu ce qui se passe dans la vraie vie, quand tu regardes bien.
Ah oui, hein, oui.
Indiana Jones et le Temple Maudit n'est pas un film d'aventure, c'est un documentaire sur l'Inde. Alors on retrouve bien sûr le beau Harrison Ford en Indy, qui foire quand même plus ou moins tout ce qu'il entreprend. Hein. T'en déconnes, le nombre de fois où il fait de la merde, Indiana Jones, mais c'est hallucinant en fait. Vous avez compté pendant toute la saga, mais il foire quasiment tout ce qu'il fait. Il se retrouve tout le temps dans la merde. Bon après, évidemment, il reste toujours égal à lui-même, hein, bien sûr, avec son intelligence, avec ce flegme qu'il caractérise. Par contre, dans ce deuxième volet, il y a un personnage qui change du tout au tout, c'est le personnage féminin. Ici, c'est Willie Scott, joué par Kate Capshaw, que Spielberg épousera après le film. Et ils sont encore mariés aujourd'hui. Oh merde. En tout cas, c'est un mariage qui dure, et à Hollywood, c'est assez rare. Alors elle, dans le film, c'est pas compliqué, elle ne sert à rien. R-I-E-N. Elle hurle tout le temps, elle est jamais contente, et voilà, elle casse des couilles, elle passe son temps à faire chier, là. Spielberg pousse à fond le curseur du cliché princesse capricieuse jetée en enfer. Non, mais sans déconner, elle va être complètement inutile au récit. À tel point qu'on se demande parfois, mais pourquoi Spielberg, il a fait ça? C'est tout le contraire de Marion dans le premier film. Marion, elle envoyait du lourd, tu vois, et dès sa première scène à l'écran. Elle est forte, elle est indépendante, elle balance même des coups de latte. Et même Elsa aussi, dans le troisième film, Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Elle aussi, elle est plutôt intéressante, tu vois. Elle est intelligente, manipulatrice, à la fois méchante, mais aussi gentille. Et elle envoie un peu du lourd aussi. Ça, je pense qu'il faut le dire.
T'aurais pu commencer par ça, hein.
Oui. Elle a même des points communs avec Indy, puisqu'elle aime les objets historiques. Mais là, Willy, non, excusez-moi, mais là, elle ne sert à rien. C'est juste la blonde superficielle, obsédée par ses robes et ses diamants. On est en plein dans le cliché des années 80. Alors, en fait, techniquement, on va pas exagérer non plus. C'est pas tellement ça, le problème. En fait, même comme ça, ça pourrait être un personnage intéressant, tu vois, ce serait un peu l'antithèse d'Indiana Jones. C'est justement ce genre de choses-là qui peut faire fonctionner un duo. C'est sympa qu'elle soit très différente de Marion au final, elle est un peu comme nous, t'es spectatrice de l'histoire. Elle réagit comme nous si on se retrouvait dans un temple avec des mecs qui arrachent des cœurs à main nue. Elle apporte un côté comédie dans un film qui est un peu plus sombre que le premier. Mais le vrai souci, c'est que tout au long du film, elle n'est jamais développée, elle n'évolue pas, elle reste toujours comme elle est, sur une ligne droite. Elle a aucun arc narratif, tu vois, y a pas de moment où elle devient vraiment courageuse et utile. Elle est toujours dans la plainte du début à la fin, Donc voilà, le résultat, c'est que bah, ça en fait pas un personnage hyper attachant. Donc voilà, Willy, c'est de la merde.
Non, mais on dit pas c'est de la merde. On dit je n'aime pas parce que.
Je n'aime pas parce que c'est de la merde. Tiens, d'ailleurs, vous savez qu'Indiana Jones s'appelle Indiana parce que le chien de George Lucas s'appelait Indiana. Hein. Ça, on le sait très bien, c'est une anecdote connue. Ils en parlent même à la fin du 3. Hein.
On a appelé le chien Indiana.
Tu t'appelles comme le chien.
En revanche, est-ce que vous saviez que Willy Scott s'appelle Willy parce que le chien de Spielberg s'appelait Willy?
Hey, et ça c'est ouf. Et
attendez, parce que c'est pas tout, vous savez quoi d'autre? En VO, 2001 s'appelle Short Round, il s'appelle pas Half Moon. Et Short Round, c'était le nom du chien des scénaristes Will Hardwick et Gloria Katz. Et ouais, tous les personnages ont des noms de chiens en fait.
Et ça c'est beau.
Et bah ça m'a gueulé, bah tu le savais pas, bah maintenant tu le sais. Et c'est sur 12 parsecs que tu l'auras appris. Ne me remerciez pas, c'est gratuit.
C'est qui 2001?
Alors 2001, c'est un jeune garçon de 10 ans, ami d'Indiana Jones, joué par Ke-Huy Quan. L'image de quand il se retrouve aux Oscars des années plus tard, là, elle avait fait le tour d'internet, c'était extra. 2001, c'était le gamin qu'on avait tous envie d'être. Moi je voulais être 2001. Voilà, je voulais même être la lune entière. C'est un gamin qui est hyper débrouillard, tu vois, il vient de la street, il suit une Indiana Jones dans ses aventures, en plus il sait se battre, tu vois, il fait du kung-fu. Évidemment, c'est un chinois. Il était tellement cool, Ke-Huy Quan, qu'il jouera aussi le personnage de Data dans les Goonies l'année suivante. T'imagines, le gamin à 12 ans, il avait joué dans Indiana Jones et les Goonies. Et pas un petit rôle pourri, hein, non, l'un des rôles principaux du film. Ah là là, vous vous rendez compte, hein, je donnerais n'importe quoi pour pouvoir échanger ma jeunesse avec la sienne.
Sérieux?
Ah ouais?
Tu voudrais tout échanger?
Tout.
T'es sûr?
Grave.
Ah, réfléchis bien quand même, hein. C'est un Asiatique, hein, le gars.
Ouais. Ouais, non, ouais, ouais. Ouais, non, je garderai quand même mon sgeg. Ouais, ouais.
Bah oui, hein.
Ouais, ouais, non, ouais, ouais,
quand même mieux, ouais, quand même.
Ce serait plus sage, mon ami.
Allez, on lance le film. Et ça commence direct avec une sorte de numéro de cabaret. Hein. Il y a plein de danseuses, hein. Ça s'agite en petite tenue. Ça trémousse des fions dans tous les coins. Et on aime bien ça, nous. Oui, ça commence bien. Il y a une chanteuse qui se la donne à fond là, elle chante en mandarin, c'est carrément la classe. Et nous sommes donc à Shanghai en 1935. Et on voit des jambes avec des pieds qui descendent un escalier.
Soyez prudent.
Ta gueule, toi. T'es qui? Pour qui tu te prends, toi? Évidemment qu'il est prudent, Indy. Il est prudent dans toutes les situations. Et il va s'asseoir à la table de Senzo Tanaka, le mec de Bloodsport. Eh oui. J'ai fait une vidéo sur Bloodsport, hein, bien sûr, allez la voir. Hein. C'est la meilleure de la chaîne. Hein, Jean-Claude, c'est la meilleure de la chaîne?
Non, non, non.
Ah bah, sympa, merci beaucoup. Et là, on perd pas de temps. Les négociations peuvent direct commencer. Alors, vous pouvez m'apprendre le Dim Mac? Ça dépend, tu m'as rapporté des nems? Bah oui, j'en avais, mais il y a un mec qui me les a volés. Alors, j'ai couru après et je lui ai dit, hé, c'est ma nem, c'est ma nem. Et là, Senzo Tanaka, son Shidoshi lui demande s'il a trouvé Nurachi. Eli Nurachi? Mais non, putain, tu confonds, tu dis n'importe quoi, là. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la belle Willy.
Mademoiselle Willy Scott, monsieur Indiana Jones, le célèbre archéologue.
Non mais alors là, voilà, alors direct, non, excusez-moi de tout de suite faire pause pour râler, hein, mais...
Bah, c'est un peu le principe de ta chaîne en même temps.
Oui, c'est vrai, complètement, ouais. Bah, du coup, je m'excuse pas. Mais alors là, le célèbre archéologue. Mais comment on peut être un célèbre archéologue? Les archéologues, ils travaillent tranquillement chacun de leur côté, toi. Je veux dire, il a fait quoi à ce moment-là de l'histoire, Indiana Jones, pour être célèbre? Est-ce qu'il a participé à des expéditions importantes? Est-ce qu'il a mis la main sur des artefacts hyper rares? C'est lui qui a retrouvé la famille de Xavier Dupont de Ligonnès? Tu parles, il a même pas encore trouvé l'Arche d'Alliance. En tout cas, apparemment, il a déjà une bonne répute à travers le monde. Et là, Tanaka lui dit de lui remettre les cendres de Nurachi, sinon il le flingue. Mais direct, Indy chope Willy, il menace de planter la belle plante.
Bah, dis donc, pas très gentleman sur ce coup-là, le Indy.
Moi, si j'étais Spielberg, j'aurais cassé la gueule, attends, il s'en prend à sa meuf.
Non, mais c'est un rôle, c'est pour le film, là.
Oui, mais même.
Oui, mais même.
Et alors là, Tanaka va d'abord lui filer de la thune, et surtout ensuite un diamant, avec en prime un petit verre de Schweppes agrumes. Alors, ça, c'est sympa, ça, c'était le petit rafraîchissement, là. C'est le petit cocktail de bienvenue dégueulasse, là, dans les buffets à volonté chinois. Ça sent pas du tout le piège, en plus, hein. Non, ça va, tout va bien. Et Indy remet à Tanaka le fameux Nurachi.
C'est ça, Nurachi? Eh ben, il est pas très grand.
Alors là, vous voyez, c'est précisément avec cette phrase-là qu'on se rend compte tout de suite que Willy va être complètement bidon. Elle va être clairement aussi con que ses pieds. Et des phrases comme ça, croyez-moi qu'il va y en avoir quelques-unes. Tanaka récupère donc les cendres de Nurachi pendant que ce tocard d'Indiana Jones, excusez-moi mais il n'y a pas d'autre mot, boit bien tranquillement le verre que ses ennemis lui offrent. Le gars a juste essayé de le tuer il y a 2 secondes, mais c'est pas grave. Aucune raison de s'inquiéter. Attends, déjà quand t'es normal, il faudrait être fou pour faire confiance à ces gens-là. Ah bah, je m'excuse, mais chinois, ça rime avec sournois. Ah bah, oui, mais j'y suis pour rien, moi. Vous vous dites bien ce que vous voulez, bah, moi je dis que c'est pas un hasard. Indy finit son verre et direct les autres se marrent. Et là, Ochier montre un petit flacon en disant que c'est...
L'antidote. Contre quoi? Le poison que vous venez d'absorber, Dr. Jones.
Eh oui, trou de balle, tu t'es fait avoir comme un bleu, là, espèce de vieux niaille. Gamelou le babelé, là, il a râlé le vieux niaille de ses mœurs. Putain, sans déconner, même moi je l'avais deviné.
N'importe quoi.
Mais si, mais bien sûr que si.
Ah ouais? Et comment tu sais?
Mais parce que c'est des Chinois.
Ce poison est à effet rapide, docteur.
Non, pas du tout, absolument pas. Il est rapide de que dalle. Là, il va se passer plus de 5 minutes avant que Indy boive l'antidote et il ne va rien lui arriver. Il va même pas transpirer un peu. Alors Tanaka, ton poison, là, il est tout bidon. Hein. Même la vitesse de la dérive des continents est plus rapide. Seulement, le pote d'Indy arrive à la rescousse et les braque avec son flingue. Sauf que pile à ce moment-là, par le plus grand des hasards, il y a plein de bouchons de bouteilles qui pètent dans tous les sens. Les gens ont tous décidé d'ouvrir leurs bouteilles en même temps. Et là, tiens, le verre est cassé. Alors bon, en fait, si on regarde bien, il était déjà cassé dans le plan d'avant. Hein. On n'a même pas encore entendu le bruit de la balle, mais il était déjà cassé. Et là, une tache de sang apparaît et Wu Hang se rend compte qu'il s'est pris une balle. C'est-à-dire qu'en fait, il avait rien senti du tout et c'est en voyant le verre cassé et la tache sur sa chemise qu'il s'est dit « Tiens !»
Eh ben alors ? Mais dites donc, me dites pas que je viens de me prendre une balle, là ?
Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah, je sais pas, peut-être qu'il aurait pu la sentir avant, non ?
Entre parenthèses, vous pouvez m'expliquer pourquoi il n'y a pas de trou dans sa veste, là ? Genre, la tache de sang, elle vient juste de derrière la chemise, mais il n'y a aucun trou nulle part.
Ah oh, putain, fais chier, mais j'aurais pas dû prendre ce film-là pour faire une analyse.
Je l'adore, hein, je le kiffe, évidemment, mais je vais tellement le détruire.
C'est marrant, c'est exactement ce que tu disais hier à propos de ta copine, là.
Qui ça ?
Lionel.
Ah, Lionel, oui. Oui, Lionel, oui, oui, ça, oui, oui.
Bon, là, ça, c'est différent, c'est juste pour dépanner, ça.
Bon, bah, pour le pote d'Indy, je crois que c'est Rapado. Rapado, Rapado.
Je vous ai suivi dans toutes vos aventures.
Hein ? Mais quelles aventures ? Mais de quoi tu parles, toi ?
Encore un qui parle d'Indiana Jones, comme si le mec, toutes ses aventures, bah, c'était déjà des légendes.
Et quelles légendes ?
Mais j'en sais rien ! Alors, tu serais bien gentil de crever en silence, s'il te plaît.
Mais aujourd'hui, je prends la route du grand mystère. Et je la prends sale.
Non, attendez, là, il a mal dit sa réplique, là. Remettez sa phrase et faites-lui dire mystère comme il faut.
Mais aujourd'hui, je prends la route du grand
mystère.
Et je la prends sale.
Voilà, là, c'est bien. Bon, là, Indy, il en a marre, là. Il prend un pic à brochette et il planque le type dans le bide. Et attention, c'est parti. Baston général, c'est la panique à bord, ça court dans tous les sens. Et on a d'un côté Indy qui essaie de choper l'antidote, et de l'autre Willy qui veut à tout prix récupérer le diamant.
Alors, cette scène est un petit peu à l'image de tout le début du film, c'est-à-dire que je trouve personnellement que c'est assez con. Par moments, on n'a pas du tout l'impression d'être dans Indiana Jones, on se croirait plutôt dans du Benny Hill.
Alors, bon, moi, les sketchs de Benny Hill, je kiffais carrément. Hein. Mais bon, là, on est dans Indiana Jones quand même, merde, attends, un peu de sérieux, que diable. Et attention, et blaaah.
Bon, je retire ce que j'ai dit, c'est carrément génial.
Foutre Indy sur un chariot et le balancer comme un connard dans l'orchestre, putain, mais ça a l'air tellement génial que j'ai envie d'essayer.
À mon mariage, je le ferai, c'est promis. Dieu m'en est témoin.
Hein, Dieu ?
Quoi ?
Bah, tu m'en es témoin.
Qui ça ?
Bah, toi !
Je sais pas, moi, il faut faire quoi ?
Ah, oh, putain, c'est pas... Mais tu m'écoutais pas du tout, en fait.
Bah non, pour que je t'écouterais.
Bah, je sais pas, t'es pas censé écouter les gens.
Bah si, mais si tu veux, t'es peut-être pas tout seul sur Terre, tu vois.
Bah, bien sûr que si, je suis tout seul. Il m'appelle Yann Solo.
Ah, il est fort, la foire.
Allez, ça devient de plus en plus le bordel, y a d'autres méchants qui arrivent, y a des ballons qui tombent, c'est n'importe quoi. Willy trouve l'antidote. Indy se protège derrière un énorme gong.
Genre là, le méchant, il lui tire dessus, il l'a pas eu, là, tu vois.
Ah, je te jure, allez. On voit bien que les mecs, là, ils ont aussi été formés à l'école de George Lucas. Peut-être les cousins chinois des Stormtroopers. Indy chope Willy, il saute par la fenêtre et et les voilà qui atterrissent dans une voiture.
Vous avez vu le petit club Obi-Wan là ? Petite rêve sympa.
Et coucou toi ! Mais qui c'est ce petit garçon ? C'est lui qui conduit la voiture ?
Mais il a 12 ans non ?
Bon, en même temps, en Asie, tu peux passer le permis dès que t'apprends à marcher.
En avant toutes !
À tes ordres, Dr. Jones, accroche-toi à tes bretelles !
Et c'est parti ! Putain, j'arrive pas à dire autre chose. J'y arrive pas, voilà, c'est pas possible.
Alors, je vais quand même essayer, parce que dans la dernière vidéo, je vous avais demandé de me proposer des idées de phrases que je pourrais dire pour annoncer une bonne scène d'action.
Et vous avez été très nombreux à me dire de la merde.
C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas choisir.
Indy tend direct une Harvey Weinstein avec Willy, il trouve l'antidote, et hop, cul sec.
Alors, vous voyez, tout s'est très bien passé. À son poison, à action rapide, l'autre, il repassera.
Alors là, non seulement c'est un gamin qui conduit, mais en plus, il regarde pas du tout la route.
À ce moment-là, normalement, Indiana Jones, il aurait déjà dû mourir 18 fois.
Et le film est commencé depuis moins de 10 minutes. Si on garde le même rythme, à la fin du film, il aura dû mourir 216 fois.
Ce qui est tout à fait dans la moyenne pour un film Indiana Jones.
Indy passe son flingue à Willy qui va immédiatement le faire tomber par la fenêtre. Alors voilà, voilà, c'est-à-dire Willy, son rôle, ça va être ça. C'est connerie sur connerie pendant 2 heures.
Je suis affreusement brûlé, je me suis cassé un homme.
Ok, super. Il y a des gens qui nous poursuivent, qui essaient de nous tuer, mais bon, d'accord. On va quand même essayer de trouver une pharmacie, puis s'arrêter pour soigner ton ongle. Connasse, va.
Non, arrête.
On va faire un truc. C'est la seule fois que je la traiterai de connasse dans la vidéo, et pour toutes les autres fois, je dirai rien, mais je le penserai très fort quand même.
Et tu feras aussi ça pour les autres
Bon, alors, pour les autres, t'inquiète, je me retiendrai pas du tout. T'inquiète pas que je vais pas me gêner.
D'ailleurs, je vais commencer maintenant, parce qu'Indy, Willy et Demi-Lune arrivent à l'aéroport, et se font accueillir par un type qui ressemble très fortement à Ray dans Ghostbusters.
Waouh, waouh, waouh!
savais pas que Danacron était dans ce film, et vous ?
Alors si, moi je savais, moi, parce que je suis très fort en film et en cinéma, tout ça. Par contre, excusez-moi de toujours revenir à la même chose, mais alors putain, la VF de Danacron, c'est proprement hallucinant à quel point ça ne lui va pas du tout.
En effet, vous voyagerez au milieu de la volaille.
Putain, mais sérieux, mais bordel de merde ! Faites un peu attention, messieurs les doubleurs, là, faites attention. Parce que moi, je suis en train de me préparer, justement, là. Je peux vous dire que quand je vais arriver derrière, ça va faire très mal.
Titre !
Chut ! Lao Tse arrive, mais c'est trop tard. Indy monte dans l'avion. Et là, eh oui, l'avion appartenait à Lao Tse !
C'est un piège !
Mais alors, attendez, parce que c'est bizarre, ça. Parce que là, comment Lao Tse savait que Indy viendrait ici et monterait dans cet avion ? En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça faisait partie de son plan depuis le début. Mais alors, pourquoi il l'a empoisonné dans le club, alors ? Il savait que ça marcherait pas, et il a décidé de mettre un avion là pour le cas où il viendrait ici ? J'exige de comprendre ! Allez, Indy peut enfin se mettre à l'aise, et il va en profiter pour faire une petite sieste pendant que l'avion les amène, on ne sait pas où. On sait pas où ils vont, voilà. Eux-mêmes ne le savent peut-être pas, et ils l'apprendront en l'air dans l'avion. Car ils ont rendez-vous en terre inconnue.
C'est ici, dans les montagnes du nord-est du Vietnam, que vivent les Lolo Noirs.
Ah, les Lolo Noirs, les fameux. On les aime bien, les Lolo Noirs, sur 12 par sec. Hein, les gars, on les aime bien.
Oui.
D'ailleurs, même s'ils sont pas noirs, c'est pas très grave. Hein. Je veux dire, ils peuvent mettre de n'importe quelle couleur, ça ira très bien. Jaune, vert, bleu, on prend tout. Et là, alors qu'Indy et les autres sont toujours en train de faire la sieste, les deux pilotes décident de leur fausser compagnie. Putain, mais te marre pas, toi, tu vas les réveiller, abruti. Et puis le deuxième, d'ailleurs, qui passe en gueulant. Non mais sérieux ?
Ils sont cons, quoi.
Oui, bien sûr.
Et là, les pilotes sautent, ce qui réveille Willy, c'est pas trop tôt. Vu le boucan qu'il y a là-dedans, tu te demandes comment ils sont pas réveillés avant. C'est impossible de dormir dans un avion, de toute façon. Et puis d'abord, pourquoi il y a des poules ? Mais c'est quoi le sens de prendre des poules dans un avion ? Putain, mais le gâchis d'espace et d'argent, quoi. Des poules, tu peux en avoir comme tu veux. J'ai dit, qu'est-ce que t'as besoin d'en prendre, de prendre celle-là particulièrement et de les prendre dans l'avion avec toi ? C'est quoi, c'est des poules aux œufs d'or ? Putain, mais comment ils ont pas de sens, les Chinois ? Et dire que c'est eux qui vont retourner sur la Lune en premier ? Bien sûr que c'est eux. Bah attends, c'est pas les Américains.
Mais ça n'a rien à voir.
Ça a tout à voir. Et Willy réveille Indy parce que là, il n'y a plus de pilote et l'avion fonce droit vers les montagnes.
Vous avez piloté ce truc-là ?
Non ? Et vous ?
Alors ça par contre j'adore ça. Tu vois, c'est cette petite phrase là qui montre que Indy, bah tu vois, c'est pas un surhomme. Il sait faire plein de trucs, mais il sait pas forcément piloter un avion. C'est un homme comme les autres, Indiana Jones. Hein. Ce n'est pas Chuck Norris, ce n'est pas Superman, ce n'est pas Han Solo. Enfin bref, c'est pas l'homme parfait, quoi.
Y'a plus de parachute !
Évidemment, voilà, ça c'était sûr, y'a plus de charapute.
Parachute !
Et alors là, mes amis, si vous êtes Indy, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez que quelques secondes pour trouver la solution. Et vous ne pouvez pas rester dans l'avion, parce que sinon vous allez mourir. Donc il faut sauter. Alors Indy, il prend ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire un bateau gonflable. Et attention, c'est parti. Il saute dans le vide avec Willy et Demi-Lune pendant que le bateau se gonfle, il tombe en chute libre, c'est incroyable ! Ils ne vont pas survivre, ils ne peuvent pas survivre à ça. Le bateau ne va pas du tout être suffisant pour ralentir leur chute. Alors, ça va ralentir leur chute, hein, oui, bien sûr. C'est mieux que rien. La surface du bateau est plus grande que celle de leur corps, donc la résistance à l'air est plus importante. En plus, ils arrivent sur de la neige et en pente, donc l'énergie, tu vois, est un peu transférée quelque part. Donc, bah, il y a des éléments de discussion pour, voilà, pour voir la crédibilité du truc, tu vois. Mais en fait, non, c'est absolument n'importe quoi. Et bla ! Et si ils survivent, et même sans problème, ils ont même pas une égratignure. Et bah ça, mes amis, vous voulez que je vous dise ? Eh bien, c'est peut-être, selon moi, l'une des meilleures scènes, l'une des meilleures idées de toute la saga Indiana Jones.
Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ?
Oui, monsieur, parfaitement, j'assume mes propos. En fait, pour en avoir discuté avec plein de gens, on sait bien que cette scène-là est très décriée. Et c'est vrai que le truc, quelque part, c'est quand même un peu un scandale, quoi. Là, Spielberg, il se fout littéralement de notre gueule. Parce que là, il devrait juste s'écraser comme des crêpes. Là, si vous voulez, les lois de la physique, Spielberg, il s'est dit...
On s'en balance.
Déjà, rien que le fait qu'ils arrivent à rester dans le bateau pendant qu'ils tombent, c'est ultra chaud. Hein. Sans compter que, vu la taille de la porte, ça a dû être hyper chaud de sauter tous en même temps, tu vois. Vu comment c'est étroit, ils auraient dû sauter l'un après l'autre et puis essayer de se rejoindre dans les airs et de rester dans le bateau. Mais figurez-vous que moi, cette scène, eh ben, elle m'a jamais dérangé. Et je vais même vous dire un truc. Approchez-vous, c'est un secret. Je trouve que c'est une scène qui est vraiment géniale, qui est dans le plus pur style Indiana Jones, qui doit trouver des solutions à l'arrache au dernier moment pour se sortir de situations complètement ouf. En fait, quand tu regardes bien, Indiana Jones, c'est un petit peu le John McClane de l'aventure. Ils sont pas invincibles, tu vois, ils prennent tarif tout au long des films, ils sont toujours au bord de crever, ils doivent improviser avec tout ce qu'ils ont sous la main, ils sont fatigués, blessés, sales, et surtout, ils gagnent pas parce qu'ils sont forts, ils gagnent parce qu'ils ne lâchent jamais. Là, Indy, il réfléchit pas, il y va à l'instinct, et ça passe ou ça casse. Et ben moi, je dis que vous enlevez ce genre de scène. Et ben Indiana Jones, ça devient devient un film d'aventure classique, comme Die Hard devient des films d'action classiques si on enlève tout le truc de ouf que fait John McClane tout au long de la saga. Dans Die Hard 4, quand il balance une bagnole sur un hélicoptère parce qu'il a plus de balles, c'est un des trucs à la fois les plus abusés et les plus cool de la saga. C'est complètement n'importe quoi, mais en même temps c'est tellement John McClane. Et bah pour Indiana Jones, c'est exactement la même chose. Voilà ce que moi je dis, et j'ai raison,
et vous le savez.
Et en plus les gars, là je ne vous parle que de la première partie de cette scène. Parce que quand ils arrivent sur la neige, ils s'arrêtent pas, ils glissent dessus, ils descendent la montagne à fond, ils évitent tous les arbres, et pour finir, attention, il tombe de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de mètres pour atterrir sur une rivière en folie. Ils passent en mode rafting et ils vont toujours super bien, personne n'est blessé.
C'est n'importe quoi.
Bon, là par contre, je sais plus trop comment je peux défendre la scène. Mais en fait, on s'en fout, y a pas besoin de la défendre. Spielberg lui-même sait que c'est abusé, mais il s'en fout. Il assume et il a complètement raison, attends. Bon, c'est fini là, où il avait encore traversé un volcan en éruption en étant poursuivi par des tyrannosaures. Non, hein, je crois qu'on va s'arrêter là pour le moment. Et il y a encore 1h15 de film. Et là, ils arrivent enfin devant le chef de la tribu des Lolo Noirs.
On va enfin voir à quoi ça ressemble.
Un peu, alors, montrez-moi voir ça. Ouais, bon, c'est pas tellement ce qu'on attendait, je vous avoue, mais bon, écoutez, va falloir faire avec, hein. Allez, on va voir le village, et alors là, attendez, pause. Attendez, j'ai pas compris quelque chose. Le vieux, là, qu'on vient de voir, là, qui doit certainement être le petit-fils de Michel Drucker. D'abord, on le voit au bord de la rivière, il est juste là, et ensuite, quand ils sont plus loin dans les terres, bah le vieux, il est là aussi, il les attend, comme s'il avait été là avant eux. Et comment il a fait? Je comprends pas, là.
C'est impossible.
Alors, soit c'est deux frères jumeaux, tu vois, puis ils font exprès de se placer à des endroits un peu stratégiques pour que ça fasse un peu plus mystique, là. Soit c'est le même type, et il a couru à fond pour arriver là avant Indy, et là, il fait style, il est là depuis le début, alors qu'en fait, il vient juste d'arriver, et puis, bah, tu sais, voilà, il fait genre, il est pas essoufflé, alors qu'en fait, sous son rideau, là, il transpire comme un bâtard. Il leur montre la direction du village, tu sais pas pourquoi, limite, on dirait qu'il les attendait. Et ils y allèrent. Ils marchèrent longtemps. Putain, mais il est encore là, le ouf. Mais c'est pas possible. C'est des triplés, en fait, c'est pas possible autrement. Ou alors, à chaque fois, il court comme un ouf pour arriver avant Indy. Mais en même temps, il faut pas qu'Indy le voit partir, parce que sinon, l'effet, il est foiré. Donc, en plus, le mec, il reste sur place, il attend que Indy et l'autre, ils partent pour qu'il le voit plus. Et après, il part à fond, à pied, en faisant en plus un détour. Pour arriver là, après. Non, mais en fait, c'est trop un ouf le type, quoi. Mais moi, il me fout grave les boules. Ils arrivent dans le village et direct, tout le monde vient les voir pour leur demander de la thune. Ah bah super, bonjour à l'accueil. Ah, je te jure, ça c'est typiquement le genre de comportement qui me fait chier. Attendez, mais foutez-nous la paix au moins, là. Laissez-nous le temps d'arriver, là. On a rien, voilà, j'ai rien sur moi. Moi, j'ai qu'une carte bancaire, voilà, désolé. Vous prenez pas la carte bancaire? Oui, bien sûr, on la prend, oui, bah vous savez, on prend tout, nous. Et là, il y a une dame qui vient voir Demi-Lune. Bonjour, vous avez une pièce pour le manger? Oui, bien sûr, ça s'appelle la salle à manger. Ah, il file enfin à bouffer. Et non, c'est pas trop tôt, hein. On a failli attendre, hein. Attendez, quand on reçoit les invités de marque, on prépare au moins l'apéro. Ils ont déjà bien de la chance qu'on vienne les voir dans leur pauvre patelin pourri, là. Et là, le vieux qui se téléporte leur explique qu'il y a un maharaja dans un palais qui a kidnappé tous les enfants du village, qui tue son peuple et qui a volé les pierres sacrées. Et que si Indiana Jones est arrivé dans leur village, ce n'est pas un hasard.
Voilà pourquoi Shiva vous a conduit ici.
Ah, d'accord.
Ah, d'accord, ouais.
Donc c'est Shiva qui a fait écraser l'avion. C'est pas parce que les pilotes se sont barrés. Non, c'est Shiva. C'est pas parce qu'on était dans l'avion de mon ennemi Lao Tse et qui voulait ma mort parce que j'ai volé son diamant. Non, c'est Shiva. C'est pas parce que j'ai tué son pote. Non, c'est Shiva. C'est pas parce que j'ai tout défoncé dans le club. Bon, tu la fermes maintenant, c'est Shiva, je te dis, putain, qu'est-ce que les couilles. Oui, bah t'as Shiva, la prochaine fois, tu demanderas de nous laisser 2-3 parachutes parce que faire de la chute libre avec un bateau pneumatique, c'est un peu galère quand même.
Vous trouverez Shiva Linga et vous la ramènerez chez nous.
Et ouais, ma poule, c'est reparti pour un tour. Et puis là, t'as intérêt d'accepter parce que sinon, ils vont le bouffer tout cru. Ah bah, ils ont rien à bouffer. Pour eux, c'est une aubaine. Mais non, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas cannibales. Pas encore.
Pas encore.
Et Indy, là, il réfléchit. Là, il a besoin de réfléchir. Il a besoin d'être seul pour pouvoir prendre un temps de réflexion et savoir ce qu'il va faire. Donc, il va hyper loin du camp. Il se fout là en haut d'une falaise, quoi. Il avait même carrément dû escalader, tu vois. En plus, il n'y a même pas de lumière. Je sais pas, vraiment pas ce qu'il est venu foutre là. Il aurait carrément pu rester au camp, de ce qu'il se pouvait faire. Ah, je vous jure, mais pourquoi faire simple? Allez, c'est reparti, on enfourche notre éléphant. Et en route, mauvaise troupe.
On scelle tout le monde, mettons ce festin ambulant en route.
Évidemment, Willy fait de la merde et monte sur son éléphant à l'envers. Alors, à sa décharge, je sais pas à quel point ça peut être galère de monter sur un éléphant ou pas, mais je l'ai jamais fait. Ah non, alors moi non, je peux vous jurer que si je vais en Thaïlande ou en Asie, je vais certainement pas aller voir des trucs à touristes comme ça, les éléphants là, comme ça. Ah, moi, je ferais jamais ça. Hein? Les trucs à thé avec les tigres et tout, les trucs comme ça là, moi faire ça? Jamais de la vie, non, mais attends, mais c'est attrape touriste ça! En plus, Willy après met du Chanel 5 sur l'éléphant qui doit certainement puer sa race, sauf que Babar ça lui plaît pas, ça. Et plat!
Extra très drôle!
Ah, le salaud le gamin là, vous avez vu, il se fout de sa gueule comme ça, oui, alors que ça se trouve, il s'est peut-être fait mal. C'est pour ça que les gamins c'est de la merde. On remet quand même la chute pour voir là.
Rigolez pas, rigolez pas, c'est pas drôle, on va arrêter.
Allez, ils vont camper là cette nuit. Je vous passe toute la scène où Willy gueule dans tous les sens parce qu'il y a plein d'animaux sauvages. Pendant qu'Indy et Demi-Lune se font un petit poker tranquille. Franchement, j'adore ce film, c'est pas la question. Enfin, plutôt si, c'est la question.
C'est la question.
Mais sérieux, mais comment c'est nul tous ces passages, mais c'est nul. La caricature, quoi. Je vous ai dit, Willy, c'est juste la meuf qui subit et qui râle du début à la fin. C'est vraiment avec ce genre de scène qu'on voit que Spielberg a été un petit peu trop loin avec ça, avec ce concept-là, et qu'il a malheureusement oublié, je trouve, d'en faire un vrai personnage intéressant. L'idée de base est pas mauvaise, mais l'exécution est un peu foirée quand même. Et le lendemain, ils arrivent enfin au temple où ils se font accueillir par le premier ministre Chatar Lal. C'est pas vous qui avez joué Dalsim dans Street Fighter ? Comment vous le savez ? Ça sort que dans 59 ans. C'est parce que je viens du futur. Je suis Mirai Indiana Jones. Mirai, ça c'est pour les fans de DBZ. Et pour les autres, je vais vous aider, hein, bien sûr. Hein, je vais vous éclairer, hein, vous illuminer, hein, parce que bah, je suis comme ça. Hein, bah, c'est mon côté magnanime. Mirai, ça veut dire futur en japonais. Et dans DBZ, il y a un personnage Trunks qui vient du futur et qui est donc très souvent appelé Mirai Trunks. Et donc Mirai Indiana Jones, bah, c'est un Indiana Jones qui vient du futur.
Moi, je m'appelle Indiana Jones.
Le docteur Jones ?
L'éminent archéologue.
Et voilà, encore un type qui sort de nulle part et qui est dans un endroit hyper reculé au fin fond du trou du fion du monde et qui connaît Indiana Jones. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il a fait pour être aussi connu ? Bon, en vrai, non, l'autre il dit qu'il a entendu parler de lui quand il faisait ses études à Oxford. Donc en fait, Indy est certainement très connu en Angleterre, mais pas forcément en Inde.
Oui, mais même.
Ouais, non, mais je sais. Allez, on passe directement à la soirée, il y a l'apéro qui se prépare. Et oui, mais enfin des gens qui savent recevoir. On va pouvoir goûter à la bonne bouffe indienne. J'espère au moins qu'il y aura assez de shot et de PQ pour tout le monde.
Vous, monsieur, vous êtes le docteur Jones. Je présume.
C'est pas possible, hein. Tout le monde connaît Indiana Jones dans ce film, quoi. Le mec est encore plus connu que Michael Jackson. Ouais, encore une fois, l'autre il est anglais aussi, donc voilà, et ça s'explique. Tout le monde connaît Indiana Jones en Angleterre. Et c'est là que je vous pose une question. Qui est le plus connu ? Indiana Jones ou Harry Potter ? J'attends vos arguments en commentaire, et celui qui donnera la meilleure réponse, le meilleur argument, recevra un cadeau. Et le cadeau du jour est un compare-gland, pour comparer votre gland avec celui de vos amis.
Et je suis sûr que le Maharaja du coin est plein aux as, et je crois que finalement c'était pas une si mauvaise idée de venir ici.
Voilà, donc bah écoutez Willy, hein, ne change pas de direction, elle est égale à elle-même. Elle ne s'intéresse à rien d'autre qu'à l'argent. On est bon mon Steven, on est bon, change rien. Et le voilà, le Maharaja, c'est un petit garçon d'une dizaine d'années. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah je vous jure, mais filer autant de pouvoir à un gamin comme ça, non mais c'est n'importe quoi. Comment voulez-vous qu'on arrive à quoi que ce soit avec ça ? Bon, cela dit, en fait non, c'est vrai que ça pourrait être certainement très marrant d'avoir un président de la République qui a 10 ans.
Bah c'est pas déjà le cas.
Non. Bon, on va pouvoir passer à table, hein, parce que sinon, avec tout ça, on n'a pas encore bouffé. Hein. Et en plus, la bouffe indienne, moi, j'aime bien ça. Ouais. La bonne street food de Mumbai. Plein de vitamines et de protéines. Ça donne envie, hein. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, hein. Mais ça, c'est encore pire qu'à Koh Lanta. Ça me rappelle la bouffe qui servait au mariage d'Astrono Geek. Alors, en entrée, fine bouchée de serpent vivant mariné dans son jus. C'est délicieux, on dirait du veau. Ensuite, croustillant de scarabée impériaux, ça fond dans la bouche. Avec une petite pointe de citron et une feuille de basilic, c'est délicieux. Alors, à la limite, moi, le scarabée, ça me dérange pas. Je pense que c'est peut-être le truc le moins dégueulasse. Et puis d'ailleurs, je dis ça, mais les serpents, ça se mange sans problème aussi, hein, dans plein de pays d'Asie. Hein. En Chine, au Vietnam, où pour en trouver, non, ça se mange. Hein. Donc vous voyez qu'en fait, il n'y a aucun problème. Pendant ce temps-là, Indy parle avec le ministre et l'attaque direct au foie en lui disant qu'il faut qu'il rende les enfants qu'il a kidnappés. Tu rends les enfants maintenant. Ça suffit, c'était marrant 5 minutes, mais là, c'est plus marrant. Mais quels enfants ? De quoi vous parlez ? Ah, je sais pas, je suis pas au courant. Bah, moi, on m'a dit de dire ça, donc voilà. Non, mais on n'a pas d'enfants de toute façon ici. Hein. Ah ouais ? Et votre Maharaja, là, c'est pas un gamin peut-être ? Ah bah si, mais celui-là, c'est le nôtre. Oui, bah donnez-nous celui-là et ça ira, je leur dirai que c'est tout ce qu'on a trouvé. Mais on peut pas vous le donner, celui-là, il est à nous. Puis il vaut hyper cher en plus. Ah non, mais attends, ils peuvent pas filer le Maharaja comme ça. Il vaut plus que tout le village réuni. Non, Indy, il en demande trop là. Faut qu'il trouve un gamin qui vaut beaucoup moins que ça. Bon, au niveau bouffe, on en est où là ? Est-ce que Willy et Demi Lune ont réussi à avaler quelque chose ? Ah, de la souplette, de la bonne souplette. On va se régaler avec ça. C'est génial, mais c'est génial, c'est absolument dégueulasse. Le truc à peine exagéré, quoi. Bah attends, c'est pas si dégueulasse que ça, hein, quand on voit la bouffe qui te serve en vrai dans la rue. Hein. Je serais pas surpris de voir un œil qui flotte là-dedans aussi. Bon, et pour le dessert, on a droit à quoi ?
Cervelle de singe en sorbet.
Servi dans son écrin originel. Émulsion glacée à la texture soyeuse, délicatement travaillée pour conserver toute la noblesse du produit. Alors évidemment, toute cette scène est une immense caricature, c'est absolument pas réaliste. Là, on est carrément dans le troll pur et simple de Spielberg et Lucas qui voulaient une scène volontairement exagérée. Les œufs qui flottent dans la soupe, c'est même presque du cartoon, quoi. Mais en même temps, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, oui, c'est exagéré, oui, c'est un peu débile. Les réactions de Willy sont carrément surjouées, tu vois. Mais c'est ultra assumé, tu vois, et c'est ça qui fait que la scène est culte. Il il faut des trucs comme ça pour qu'Indiana Jones marque les esprits. Enfin merde quoi, ils allaient quand même pas servir du jambon puré ou alors des knackis et coquillettes au beurre. Et après le dîner, Indy retrouve Willy dans sa chambre. Et là, mes amis, c'est enfin au bout de 50 minutes du film que nos deux tourtereaux vont s'embrasser. Eh ben, et non, c'est pas dommage. Pour Indiana Jones, je trouve même que c'est un petit peu long. Si ça avait été un James Bond, ça aurait été fait au bout de 5 minutes. Et si ça avait été moi, eh ben, ça aurait plutôt ressemblé à ça.
Non, arrêtez, arrête, dégage !
Sauf que ça va pas durer longtemps parce que direct ils s'engueulent. Et là, on a encore une scène un peu bidon où on voit les deux personnages qui se préparent en attendant que l'autre vienne dans sa chambre. Alors bon, c'est pas bidon, hein, c'est d'époque aussi. Le film a quand même 42 ans. Hein. Et il y a clairement un côté comique, hein, humoristique que Spielberg essaye aussi d'installer pour contraster avec les moments beaucoup plus dark. Mais je sais pas, ça marche pas, non, je suis désolé, non, mais c'est de la merde. Et là, alors qu'il attend Willy, attention Indy, derrière toi! Eh oui, il y avait un méchant qui était caché dans l'ombre et qui attendait depuis 2 heures. Et le mec n'a fait aucun bruit. Pourtant, c'est un indien et il est gros. Deux éléments qui peuvent quand même nous permettre de penser qu'il a dû lâcher des caisses bien violentes qu'on aurait même dû entendre jusqu'au bout du couloir. Allez, petite baston vite fait, et c'est sur ce mouvement-là, celui-là, qu'Harrison Ford s'est complètement niqué le dos. Alors dans le making-of, il expliquait que déjà toutes les scènes avec l'éléphant, quand il était sur le dos de l'éléphant, ça lui avait bien déplacé les vertèbres, mais c'est cette roulade-là qui l'a terminé. Ah, il a une hernie discale, il a carrément été à l'hôpital, hein, le tournage a été arrêté pendant 6 semaines à cause de ça. Ah bah mais quand tu joues dans un film comme ça, il faut être prêt à donner son corps. Ça doit être pour ça qu'Harrison Ford, il fait tout le temps la gueule dans toutes ses interviews depuis 30 ans, là. Indy le chope avec son fouet, qui se prend dans le ventilateur, et alors, c'est vrai que ça a l'air un peu dégueu comme ça, en plus ça a l'air de faire hyper mal. Demi-Lune, il ferme les yeux, tu vois, mais pourtant, il n'y a pas une goutte de sang.
Titre ?
Non, écoute quand même. Indy va direct dans la chambre de Willy pour voir s'il n'y a pas un autre type aussi. Et là, en poussant une statue, il va découvrir un passage secret.
Incroyable !
Mais où cela peut-il bien mener ? Bon, par contre, c'est vraiment pas très malin d'avoir filé à Willy une chambre dans laquelle il a un passage secret. Tu peux être à peu près sûr que Indy, il va fouiller et il va le trouver. Et de toute façon, même, je veux dire, en général, tu mets pas des passages secrets dans les chambres des invités. Tu les mets dans ta chambre à toi, oui, mais si c'est un passage secret, faut que personne ne le découvre. Ils réfléchissent quand même pas beaucoup, les organisateurs, là. Indy et Demi-Lune vont voir.
Marche exactement où je marche. Et ne touche à rien.
J'ai marché où tu marches ? J'ai touché à rien ?
Quoi ? Mais toi, tu te fous de nous, quoi ? Et là, ils entrent dans une pièce, Demi-Lune marche sur un petit bouton, ce qui déclenche un mécanisme qui referme les deux portes, et nos amis sont donc pris au piège. Alors écoutez, là, franchement, c'est vraiment pas de peau, parce que le petit bouton qui est au sol pour déclencher le mécanisme, il aurait pu le rater 1000 fois. Qu'est-ce que c'est que ce système, là ? Mais c'est carrément un truc d'amateur. Attendez, parce qu'ensuite, c'est encore pire. Demi-Lune s'appuie contre le mur, ce qui déclenche un autre système, ce qui fait que maintenant le plafond se met à descendre, et il y a carrément des pics de ouf qui sortent du plafond et du sol. Non, mais le pur piège de malade, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf ? Mais c'est quoi cette pièce ? Pourquoi il y a ça, là ? Juste à côté d'une chambre d'invité. Et surtout, pourquoi le piège s'active d'une manière aussi random que ça ? Je veux dire, il y a combien de personnes qui sont passées par là et qui ont soit pas marché sur le bouton et, ou soit qui se sont pas appuyés sur le mur ? Et pour déclencher le piège, il y a quand même des trucs beaucoup plus efficaces. Là, tu comptes vachement sur la chance, quoi. Bon, là, les gars sont dans la merde et Indy appelle Willy, mais il y a des insectes partout, les trucs sont gros comme le bras. Alors, entre parenthèses, tu te demandes quand même pourquoi il y a autant d'insectes réunis au même endroit, tu vois, c'est pas comme si c'était un grand réservoir de bouffe. Et là, Willy, elle va mettre, mais genre, hyper longtemps à les sauver. Elle va râler sur tout, évidemment, elle discute sur le moindre truc, et laisse tomber le temps qu'elle va prendre pour ouvrir la porte, mais les gars, ils auraient dû mourir 15 fois. Mais on s'en fout, elle ouvre la porte, ils sont sauvés. Et là, ils arrivent enfin dans un endroit très étrange. Un endroit qui fait peur. L'on pourrait croire d'une porte d'entrée pour les enfers.
Ça va pas, non ?
Oui, bah attends, bah, il faut mettre des effets aussi. Attends, c'est une vidéo de divertissement, les gars. 12 par sec est une chaîne d'entertainment. Et les enfers, eh ben on en est vraiment pas très loin. Car Indiana Jones et ses amis vont être témoins de l'horreur, la terreur, le fanatisme religieux et les pouvoirs surnaturels. Et alors là, mes amis, je vous préviens, la scène qui va suivre est absolument géniale. Issime. C'est maintenant qu'on va rentrer dans la partie un peu plus vénère du film. Indy, Willy et Demi découvrent une foule rassemblée devant la grande statue de Kali. On voit des sortes de prêtres, là, un petit peu, l'un des agents du diable, des serviteurs du malin. Le décor est absolument génial, la lumière est terrible. Mais surtout, qui sont tous ces gens ?
Mais qui sont tous ces gens ?
Alors, j'ai fait mes recherches un petit peu sur Internet. J'ai demandé à ChatGPT, quoi. Et il apparaît que les thugs, là, on sait pas s'ils ont vraiment existé. Il y a plein de récits qui disent précise que c'était une vraie secte indienne qui existait pendant très longtemps et qui a disparu au 18e siècle. Mais j'ai aussi lu que y a des études plus récentes qui disent que, bah, si ça se trouve, en fait, ils n'ont jamais existé et que ce serait une invention des colons britanniques pour faire passer les Indiens pour des tarés. Bon, écoutez, franchement, je sais pas trop pourquoi ils ont fait un truc comme ça. Il n'y a qu'à voir comment ils cuisinent et puis c'est bon, c'est réglé. Hein. Et là, on découvre un homme, le chef des méchants, le grand prêtre Mola Ram, avec ses cornes sur la tête. Alors cet acteur-là, qui s'appelle Amrish Puri, Non, on se moque pas parce que c'était une légende du cinéma indien. Le mec a juste tourné dans plus de 450 films. Et l'anecdote que je trouve géniale, c'est qu'au moment donné où ils sont venus le voir pour lui demander de tourner dans le film, le gars, il était juste en train de bosser sur 18 films en même temps. Ah, mais voilà, je veux dire, Bollywood, à un moment donné, c'est pas la peine de faire autant de films. Bon, cela dit, les Indiens, ils sont 1,5 milliard, donc il y aura du public. Et là, on amène un homme, on amène une grille, on amène Mola. Et là, c'est le truc de ouf. Je me rappelle encore la toute première fois que j'ai vu cette scène. Je vous jure, voilà, c'est la vérité. Mola approche sa main, et qu'est-ce qu'il fait? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui arrache le cœur, et le trou se referme. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est toujours en vie.
Il est toujours en vie. Qu'est-ce donc cette diablerie?
Et là, c'est pas fini, l'horreur continue. Il descend de l'homme dans la fosse, il le plonge dans les enfers, et attention, c'est horrible, ils l'ont brûlé vivant, le truc d'ouf! Et on découvre enfin les trois pierres qui ont été volées au village et qu'Indy est venu récupérer. Alors, moi j'ai un point de vue là-dessus.
Si.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est très certainement l'un des sacrifices humains les plus stylés de l'histoire du cinéma?
Ça, c'est vrai.
Personnellement, mais j'aurais carrément kiffé être là, quoi. Je veux dire, s'il y a une secte qui vient me voir pour me dire que tous les week-ends, ils en balancent 2-3 comme ça, alors je peux dire que là, mais je signe tout de suite. Et voilà, le meeting est fini, on peut débarrasser les tables. Hein. Ils enverront un récap par email. Non, mais attendez, je sais pas si vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, il y a des parents qui emmenaient leurs enfants au cinéma pour voir ça. Alors, attendez, Indiana Jones, c'est quand même censé être un grand film d'aventure, fun et tout public. Le premier était quand même assez léger en matière d'horreur, quoi. Je veux dire, bon, peut-être à part les 2-3 plans de la fin, voilà, mais c'est, à part ça, c'est tout. Et là, d'un seul coup, on nous sort une scène avec un mec qui se fait arracher le cœur et brûler vif et qui hurle à la mort. Avec un méchant qui fait de la magie noire avec son regard et son rire de ouf. Mais attends, mais que ça fout les boules un peu, sérieux? Qu'est-ce qui lui arrive à Spielberg, là? Alors, encore une fois, c'est une scène hyper abusée, mais voilà, n'empêche que, bah, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est hyper cool. Ça instaure une ambiance beaucoup plus sombre et un petit peu dérangeante. Indiana Jones va devoir faire face à une menace mystique. Allez, tout le monde s'est barré, Indy en profite pour aller récupérer les pierres. Mais là, il entend quelque chose au loin. Putain, la vache, les cris sont horribles, quoi. Allez, il décide d'aller voir ce que c'est.
Mais où est-ce qu'il va?
Dans ton cul! Ah là là là, eh oui, Willy et Demi-Lune se font choper. Ils se sont fait rattraper par la patrouille. Et Indiana Jones s'enfonce encore plus dans les ténèbres. Et que ne va-t-il pas découvrir? Des dizaines, des centaines d'enfants réduits en esclavage. Le truc de ouf! On entend des cris, c'est horrible. Après les sacrifices humains, les enfants esclaves. Ce deuxième volet d'Indiana Jones devient de plus en plus jovial et sympathique. Convivial et chaleureux. Et en plus, ce genre de scène, c'est pas parce que ça a 42 ans que ça vieillit mal. C'est toujours pas hyper marrant de voir ça alors qu'on est en 2026. Hein. Alors ça peut avoir un peu vieilli sur la forme, d'accord, mais sur le fond, c'est toujours aussi hardcore. Hein. De toute façon, dès que ça touche aux enfants, c'est quand même toujours très difficilement supportable. Pour tous ceux qui ont des enfants, hein, et puis aussi bah, pour ceux qui n'en ont pas, bien sûr, bah, c'est toujours extrêmement difficile de voir un enfant souffrir et se faire torturer, quoi.
Du coup, ça doit être très difficile pour toi, non?
Ah non, moi ça me... Non, moi, rien de particulier, non.
Bah pourtant, t'as un enfant, hein.
Oui, non, monsieur, non, ça me dérange pas. Non. Allez, Indy se fait choper aussi, et il retrouve 2001 dans une cellule, et il y a deux gamins qui leur disent que les thugs leur font boire le sang de Kali pour les maintenir dans une sorte d'état second, un sommeil noir dans lequel ils obéissent à Kali. Et là, le Mola Ram va expliquer à Indy que tous les enfants creusent pour chercher les deux pierres qui restent, car au départ, elles étaient cinq.
Et bientôt, nous aurons réuni les cinq pierres de Sankara, et les thugs connaîtront enfin un pouvoir absolu.
Et voilà, c'est pour ça que ce vieux type veut trouver les pierres, car il veut le pouvoir. Eh oui, mais après, qu'est-ce qui se passera? Que recherchent les hommes qui ont du pouvoir? Toujours la même chose.
Plus de pouvoir.
Et là, pour Indy, ça va chauffer.
Ça va?
Oh, génial. Excellent. Mais c'est tellement Indiana Jones. Tellement John McClane. Tellement Han Solo. Sauf que là, Indy va pas faire le malin très longtemps parce qu'il y a un molosse énorme qui arrive et qui va lui faire boire le sang de Kali. Et d'où il vient, ce sang, là? C'est vraiment le sang de Kali? Ça peut pas être son sang, c'est une déesse. Alors, vous savez d'où il vient, ce sang, le Kali? John, t'as la réponse?
Les règles.
Ah,
c'est dégueulasse. Indiana boit donc le sang de force, et là, tout s'assombrit. Il sombre dans les ténèbres et le cauchemar de Cali. Et encore une scène un peu bad tripante, là. Notre Indy qu'on aime souffre. Il est en train de se transformer sous nos yeux. On le perd, les gars, on le perd. Il bascule du côté obscur, dans le royaume des ombres et des Samoussa. Et c'est reparti pour un nouveau sacrifice, car Cali n'est jamais rassasié. À la fin, la cochonne, là. Et tiens la langue, là. Et cette fois, c'est Willy qui va cramer. Au bûcher!
Au bûcher! Au bûcher!
Au bûcher!
Ah, on entendra moins sa grande gueule. Et c'est Indiana Jones qui va s'en occuper personnellement. Alors moi, j'ai aussi une théorie là-dessus, hein, et je pense que j'ai raison. À mon avis, Indy a fait exprès de boire le sang de Cali pour pouvoir lui-même buter Willy parce qu'il en avait ras-le-bol de l'entendre se plaindre depuis le début du film. Hein? Ça tombe sous le sens, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça se tient, oui. Ça se tient.
Mais c'est sans compter sur Demi-Lune, qui a réussi à s'échapper et qui traverse toute la mine devant tout le monde, devant tous les gars, sans se faire repérer.
Bah si, se faire repérer, là.
Oui, se faire repérer après, oui.
Putain,
oui.
Tu racontes vraiment de la merde, hein.
Ferme-la, toi. Et là, Demi-Lune, si vous voulez, c'est le moment où ça devient un peu un ouf, quoi. Je veux dire, il a quand même que 2 ans et demi.
12 ans et demi.
Et le gamin, il va faire des trucs de taré, quoi. Et attention, il chope l'échelle, et yaha. Et chou. Alors, moi j'aime bien me poser des questions que personne ne se pose, très certainement parce qu'elles sont complètement idiotes, hein. Mais juste, pourquoi il y a une corde, là? Qu'est-ce qu'elle fout, là, cette corde?
Là, je vois pas.
Pourquoi il y a une corde?
Bah, pour qu'il puisse l'attraper.
Oui.
Ah oui, c'est
oui,
ça, logique.
Oui, c'est évidemment aussi.
Con.
Et allez, Chetty part. On descend Willy dans la fosse. Et là, Shortrand arrive et brûle Indy avec une torche. Ah ouais, ça doit faire mal. T'as une bonne brûlure sur le flanc, là. T'es là, dans l'endroit bien sensible. Indy se réveille, il chope Demi-Lune. Il lui fait un petit signe pour dire qu'il est de retour du côté obscur. Complètement incroyable, c'est quelque chose que seulement 2 personnes avaient réussi à faire dans l'histoire. Anakin Skywalker et Chuck Norris. Et en fait, c'est avec ça que tu te rends compte que c'est hyper simple de revenir du bon côté. Leur soi-disant grand sommeil noir de Cali, le truc dont tu travailles jamais. Tu parles, il suffit juste de te faire brûler un peu, puis c'est bon, t'es réveillé. Hein. Voilà, ils ont raconté que des conneries, les 2 gamins de tout à l'heure, là. Ah, je te jure, il y a une paire de baffes aussi à ces deux-là. Et là, blaaah, c'est parti.
Oh, j'en ai marre.
Alors là, excusez-moi, mais autant je suis disposé à accepter un certain nombre de choses surréalistes dans ce film. Mais alors, 2001, qui a 12 ans et qui doit faire 30 kilos tout mouillé, qui a des jambes épaisses comme des néons, et qui arrive à te défoncer des types qui font 120 kilos, excusez-moi, mais là, il me semble qu'on nous prend un petit peu pour des cons, quand même. Et bien qu'on se foute de ma gueule, mais pas trop longtemps. Bon, c'est quand même Indy qui se débarrasse de tous les gardes, et là, il veut choper le molar, et hop là, il s'est enfui par le circuit de ventilation. Mais c'est pareil. Qu'est-ce que fou là, cette trappe là. Et dans ce film, il y a tellement de trucs qui sont là, tu sais pas pourquoi ils sont là. Et il faudrait qu'on accepte ça sans rien dire. Ah non, que nenni, monsieur Spielberg. Eh oui, que nenni, bah, j'ai dit que nenni sur internet. Bah parce que je suis un taré, moi. Allez, Indy remonte Willy qui aurait déjà dû être cramé au 1000ème degré. Bah c'est-à-dire qu'elle s'est quand même retrouvée à 3 ou 4 mètres de la lave en fusion, dont la température doit avoisiner les 1000 degrés. Donc si tu veux, déjà quand t'ouvres le four à 200 degrés, tu te prends une grosse bouffée de chaleur dans la tronche. Ah là, Willy, normalement, elle aura dû bronzer un grand coup là. Quand tu vois comment les volcanologues se protègent comme des ouf quand ils s'approchent de la lave sur les volcans, non mais attends, mais sérieux là. Ah, En fait, moi je suis un peu Willy, c'est-à-dire que je râle aussi pour tout. Allez, il récupère Willy qui est chaude comme la braise. Petit échange sympa avec Demi-Lune qui lui redonne son chapeau. Ah, c'est un instant Kodak. Allez, il récupère les pierres et maintenant il faut aller délivrer tous les gosses. Et ça, mon gars, c'est un travail pour Indiana Jones. Yeah, j'adore ce plan, là. Là, Indy, il déconne plus, là. Il file 2 baffes au garde. Non, mais regardez un peu la longueur de la glissade du mec, quoi. Non, mais en fait, dans ce film, tout est exagéré. Et c'est précisément ça qu'en fait un film génial. Et alors là, d'un seul coup, t'as tous les gamins qui se rebellent, et ils arrivent à défoncer tous les gardes hyper facilement. C'est-à-dire qu'ils ont jamais eu l'idée de le faire avant. Il a fallu qu'Indiana Jones vienne pour qu'ils se rendent compte qu'ils pouvaient faire ça. Ah, c'est vraiment un héros, cet Indy. Indy et Willy libèrent tous les gamins qui se barrent et qui te foutent un merdier sur la table. Oh là là, oh là là. Oh mon dieu, la nappe toute propre, il marche dessus avec leurs pieds dégueulasses. Non mais sérieux, mais qu'est-ce que c'est que cette éducation là? Non mais vous rendez compte, on les libère et direct ils te foutent la merde partout où ils passent. Ah, je te refoutrais tout ça au nouveau direct, moi. Pendant ce temps, Indy se fight contre le gros molosse de service. Ah bah, il y en a toujours un, hein, bien sûr. Et là, la petite fight est bien sympa parce qu'en même temps, il y a le petit Maharaja de tout à l'heure. Ah lui, il a carrément une poupée vaudou d'Indiana Jones qu'il a fait lui-même. Ah, il s'est appliqué, hein, il a même mis le petit chapeau et tout là. Sérieux, mais est-ce que c'est pas complètement con aussi ça? Et il plante la petite poupée et ah, Indy ressent le coup de couteau dans le dos. Alors à savoir que cette scène de Indy contre Molos là, sur le tapis roulant là, bah, quasiment tous les plans ont été faits par le cascadeur de Harrison Ford. En fait, ils ont tourné ça au moment où il était à l'hôpital en train de se faire opérer en convalescence. Donc dans cette scène, tous les plans de large ou de dos, ou en gros dès qu'on voit pas le visage d'Harrison Ford, c'est-à-dire les trois quarts des plans de la scène, bah, c'est pas Harrison Ford, voilà, c'est sa doublure. Et quand Harrison Ford a pu revenir, Spielberg a tourné des gros plans avec lui pour les rajouter ensuite au montage. Et la magie a ainsi pu opérer.
C'est génial.
Allez, 2001 va foutre une raclée à l'autre saleté là. Indy se réveille et défonce le garde. 2001 défonce l'autre gamin. Putain, mais le nombre de gamins qui se prennent des patates dans ce film, c'est ouf. Je crois que c'est peut-être le film dans lequel on voit le plus d'enfants battus.
C'est génial.
Ah bah, les associations de protection pour l'enfance, elles ont bien dû faire la gueule en voyant le film. Ou peut-être qu'elles sont marrées, justement, je sais pas. Le Molostanon se fait choper par la roue qui écrase des cailloux et attention. Ah ça c'est bon ça, ah ça je kiffe. Allez, 2001 et Willy sautent dans le wagon, tous les gardes arrivent avec le thème musical en fond, et là les gars, bordel, mais là on est dans la quintessence d'Indiana Jones. J'adore ce plan, j'adore cette scène, j'adore ce film. Indy saute dans le petit wagon, et là, mes amis, la meilleure scène du film, cultissime. Une scène qui a marqué l'histoire du cinéma. Tout le monde connaît cette scène. La poursuite dans les wagons du train de la mine. 42 ans après, elle a pas pris une ride. Entre les mecs qui se font exploser la gueule, 2001 qui se retrouve suspendu dans le vide entre les deux wagons, le mec qui saute d'un wagon à l'autre, les sauts de ouf d'une rail à l'autre. Non mais les gars, là, mais on touche à la perfection. Là. Remettez la scène après ma vidéo, voilà, vous faites rien d'autre. Vous mettez la scène, vous la mettez, c'est que du bonheur. Le Mola lâche le grand réservoir d'eau pour inonder toute la mine. Indy et les autres s'échappent, mais ils se retrouvent au bord de la falaise et l'eau manque de les faire tomber. Le rythme, quoi, le rythme de toute la scène est complètement ouf.
Ah putain, c'est génial!
Et vous allez voir que c'est même pas fini. Ils arrivent à remonter, ils doivent cette fois passer sur un pont de cordes. Alors on passe vite fait sur le petit clin d'œil bien sympa au premier film, quand Indy devait faire un duel contre un type avec un sabre. Mais le jour du tournage, Harrison Ford, en fait, il sentait pas bien avec la chaleur et tout, donc il avait demandé à Spielberg s'il pouvait pas juste. Lui file une balle, et du coup il le tue simplement d'un coup de flingue, ce qui n'était pas prévu au scénario, mais ils l'ont gardé pour le film. Et dans le 2, justement, Spielberg refait un clin d'œil à ce passage-là, avec Indy qui se retrouve cette fois face à deux types avec deux sabres, il veut refaire la même chose, sauf que cette fois, bah, il n'a pas son flingue, et oui. Et voilà, mais il fallait y penser, là, c'est super, on valide. Allez, il les désingue, et maintenant il faut traverser le pont. Et sans déconner, mais encore cette scène, mais là, en fait, je suis ultra fan de tout ce qui se passe depuis 20 minutes dans le film. Déjà, est-ce que c'est pas le plus beau pont suspendu fait avec des cordes à l'arrache qui inspire pas du tout confiance de toute l'histoire du cinéma? En plus, en dessous, il y a des crocodiles, quoi, putain.
C'est génial!
Sérieux, mais ce pont, je veux aller sur ce pont. Je veux aller sur ce pont. Il est où ce pont? C'est quoi comme pays? Y a qui là-bas?
Bah, c'est un pays, hein. C'est comme dans tous les pays. Hein. On s'amuse, on pleure, on rit, y a des méchants et des gentils. Hein.
Ah, ouais. C'est le pays de Candy. Eh oui, Candy, c'est ça, oui. C'est au Sri Lanka, absolument. Eh ben, putain, ça se passe au Sri Lanka, Candy? Oh, j'ai appris quelque chose, là. Et ça se passe Candy. Willy, 2001 et Indy traversent, mais ils se refont capturer par le Mola et ses homards, qui bloquent Indy sur le pont en arrivant par les deux côtés. Et là, pour Indy, là, c'est la belle cagade.
Oh, merde.
Ah oui, ouais, là, c'est le cas de le dire, là. On voit vraiment pas comment il va pouvoir s'en sortir. En plus, le Mola envoie aussi Willy et 2001 sur le pont avec lui. Et maintenant, encore une fois, comme dans l'avion au début du film, si vous étiez Indiana Jones, qu'est-ce que vous feriez? Bah là, y a pas 36 solutions. Il est 1 contre 8 déjà, donc dans un petit espace comme ça, s'il les affronte, ça va être chaud. Et là, Indy fait signe à 2001 et Willy de s'attacher parce qu'ils vont faire un petit coup de balançoire.
Il est pas fou. Il est cinglé.
Alors ça veut dire la même chose, hein. Ouais, ça veut dire pareil, fou, cinglé, c'est des synonymes. Ah, je te jure, ces gens-là qui te contredisent là pour te redire exactement la même chose derrière, ah, vous en avez forcément dans votre entourage. Et peut-être même que c'est vous d'ailleurs. Et attention, c'est hyper la balançoire. Et tiens. Indiana coupe la corde et le pont s'écroule. Waza. Et tout le monde tombe dans le ravin. Et ouais, mais ils avaient qu'à pas faire les malins. Vous l'avez... Et hop, ils finissent tous dévorés par les crocodiles. Alors cette scène est assez amusante dans la mesure où elle a été tournée sur 3 continents différents. Il explique dans le making-of, le pont qui s'effondre, ils ont tourné ça au Sri Lanka. Les plans du pont contre la falaise où les autres ils vont essayer de remonter, c'est tourné en studio à Londres. Et tous les plans des crocodiles, c'est tourné en Floride. Et ouais, voilà. Encore une scène qui a dû coûter bien cher en kérosène. Et bilan carbone dans tout ça? Hein? Personne n'en parle? Ah non, y a personne pour le dire. Et en fait non, pas du tout.
tourne aussi les autres scènes parce que c'est comme ça. Ils vont sur place, organiser, et puis ils tournent pas, ils vont pas à droite à gauche, dès qu'ils ont tourné, ils sur place, ils tournent aussi les scènes. C'est bien foutu quelque part.
Allez, tout le monde essaie de remonter, Mola tombe et s'accroche à Indy. Et là, c'est le duel en altitude. Indy et Mola Ram tirent sur le sac avec les pierres, et Indiana Jones prononce alors les mots justes, les mots qui vont enflammer les pierres sacrées. Mais lâche ce putain de sac, bordel, c'est juste des pierres bidons, qu'est-ce qu'on a à foutre? Elles servent à rien en plus. Et oui, bien sûr, mais là justement, les pierres ne sont pas d'accord. Et elles veulent montrer qu'elles servent à quelque chose. Alors déjà, en entendant ça, il y en a deux qui sont hyper tristes et qui se suicident. Ah, et le Molar essaie d'attraper la troisième, mais se brûle la main. Et il lâche le pont. Ah là là là, et oui, il plonge la tête la première dans les crocos. C'est la fin de la rame. Et les gentils anglais arrivent pour tuer les méchants thugs. Ah, je vous jure, qu'est-ce qu'on aurait fait sans eux, hein. À tous ces braves colons. T'es la vieille morale que j'essaye d'installer des fois en une phrase. Alors que je suis peut-être le mec qui a le moins de morale de tout le YouTube game. Allez, après toutes ces aventures, le trio peut enfin retourner au village. Pourquoi tu te marres, toi? Attends, ils en ont chié, les autres, hein. Ils ont dû affronter 1000 dangers pour te ramener ta pierre à la con, là. Pendant que toi, t'as juste attendu là à rien foutre. Trac, comment il m'énerve, celui-là aussi, là. En plus, il peut se téléporter, lui. Pourquoi il n'est pas venu les aider? Et alors là, vous vous souvenez des gamins qui ont été libérés tout à l'heure du temple il y a à peu près 8 heures de ça? Et il s'est passé carrément plein de trucs entre les deux. Il y a eu toute la baston dans la mine, la poursuite en wagon, la flotte, toute la scène du pont. Et bah, pourtant, Indiana Jones, Will et Demi-Lune, ils arrivent quand même avant les gosses. Et oui, c'est magnifique. Tous les parents retrouvent enfin leurs enfants. Allô ? On est ! Regardez que c'est magnifique, toutes ces merveilleuses retrouvailles. Et on peut remercier le grand Indiana Jones sans qui tout ça n'aurait jamais pu arriver. C'est vraiment le plus grand héros de tous les temps.
Nous avons toujours su vous reviendriez.
Oui, alors ça, excuse-moi, mais c'est un peu facile de dire ça quand tout est fini. Hein. S'il n'était pas revenu, t'aurais eu l'air malin.
Et voilà, tout est bien qui finit bien. La vie revient enfin dans le village. Et Indiana Jones peut enfin embrasser Willy d'un long baiser langoureux, pendant que tous les gamins arrivent pour leur réclamer de la thune. Et fin ! Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Indiana Jones et le Temple Maudit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup à toutes et à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je fais des vidéos de plus en plus longues. J'abuse vraiment de faire des vidéos aussi longues que ça. Je voudrais à chaque fois essayer de le faire moins longue et je les fais plus longues. En tout cas, j'espère que vous avez bien ri et que peut-être aussi, vous avez appris un ou deux trucs. Allez, la prochaine vidéo arrive en mai, c'est dans 3 semaines. Et je vous annonce, mesdames et messieurs, qu'on va revenir à l'astronomie pure et dure.
Vous avez vu, à chaque fois que je fais une vidéo sur l'astronomie, je dis qu'on va revenir à l'astronomie. Alors j'en fais moins, c'est sûr. Mais bon, j'en fais toujours quand même, hein. Il y en a un petit peu sur la chaîne si vous regardez bien. Non, sans déconner, j'aimerais bien repartir un peu sur l'astro avec des bons sujets et aussi des biographies de grands scientifiques, parce que comme je l'ai déjà dit et répété, c'est mon format de vidéo préféré sur la chaîne. Mais le dilemme, c'est que, comme je l'ai dit aussi, les vidéos astronomie font moins de vues que les vidéos sur les films. Donc bon, voilà. En tout cas, j'espère que vous serez présents. Je vous remercie encore pour votre fidélité, votre soutien, merci beaucoup à tous les tipeurs, je vous oublie pas, je lis vos messages, mais je réponds pas à tout le monde, désolé. Je vois aussi les gens qui adhèrent à la 12 par secte en prenant leur t-shirt. Un immense merci pour ça, arborez-le fièrement. Je vous aime tous très très fort, et un jour, on ira tous vivre ensemble sur une île. Et on fera tous l'amour. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, c'était Yann Solo sur 12 par secte. Ciao.